Bien le bonjour, bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes déjà rendus à l'émission du vendredi 21 décembre. C'est notre dernière à nous de l'année.
Oui, oui, Hélène, dernière de l'année en cette journée du solstice d'hiver. Donc, c'est la journée la plus courte de l'année, mais on va quand même essayer de mettre du soleil dans vos cœurs.
Vous en échappez aucune, vous, hein, Francine? Aucune. Et c'était la douce voix, la très belle voix de Mme Francine Forget, qui était ma fidèle collaboratrice de toutes les émissions.
Oui,
bon
c'est
matin.
Ça, c'est ça.
Et à la régie, nous avons, attention, Maurice Bolduc. Bon matin, Maurice.
Bonjour.
Bonjour.
Et comme Francine le disait, le solstice, donc les jours rallongent à compter de demain. Ça
oui.
paraîtra pas beaucoup, mais les journées rallongent.
C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Je suis tannée, juste comme ça, je suis tannée de partir à il fait noir, je reviens de travailler, il fait noir. Oh.
Mais Hélène, ce matin, il faisait tellement noir que toutes les lumières de Noël étaient allumées. Alors moi, sur mon parcours, il y avait des arbres de Noël illuminés, c'était magnifique. Alors moi, je suis la tendance optimiste de Maurice
oui.
et je me dis qu'on est du bon. Bord des choses.
Bon, vous venez de rétablir les faits, les choses avec moi, là. Fort agréable. Ce matin, nous allons vous entretenir de différents sujets. Pour ma part, je vais vous parler de finances, d'une petite routine du temps des fêtes pour les tout-petits, et aussi, il paraît qu'il y a des astuces pour passer plus vite à la caisse, puis je pense que ça va tomber sous le bon sens d'en parler ce matin. Je vais laisser Francine vous parler de ces sujets.
Alors moi, évidemment, je vais vous parler de toujours, comme d'habitude, de technologie. Alors, de la mémoire, des trolls qui s'en prennent aux femmes sur Twitter. Mm-hmm. Mais j'ai le goût de commencer, après l'indicatif musical, par un texte, le plus beau cadeau, qui est une chronique d'Émilie Dubreuil dans Le Voir de décembre 2018. Et j'avertis tout de suite notre cher régisseur, collaborateur,
oui.
metteur en onde. Je vais être obligé, je pense, de le faire en deux parties. J'essaie de le couper.
Faites-le en deux parties.
Faites-le en deux parties. Je suis pas capable.
C'est sûrement
c'est trop
un texte
beau.
Délicieux.
C'est trop beau. Ouais.
Tout à fait. Alors, nous vous revenons tout de suite. Alors, c'est beau? Francine, laissez, s'il vous plaît, gâtez-nous avec votre lecture.
Oui, alors je vais vous le faire au complet. Donc, c'est la chronique d'Émilie Dupreuil qui s'appelle « Sale temps pour sortir ». Mais aujourd'hui, je vous avoue que je trouve que sa chronique ne porte pas bien son nom. Je fais depuis quelques années de la randonnée pédestre en groupe. Parmi le groupe, selon les montagnes, il y a des amis proches, des connaissances, mais la majorité formée de gens que je ne connais pas du tout a priori. C'est autre chose après la randonnée. Le hasard de la marche fait en sorte que l'on avance souvent au même rythme que quelqu'un d'autre dont on ignore tout au pied de la montagne, mais qui, au fil des heures ou des jours avancés à respirer ensemble le grand air, se révèle. La première fois que j'ai entendu les premiers chapitres de l'histoire de Brigitte, nous étions quelque part dans l'immensité des Chic-Chocs. Alors donc, comme vous le constatez, on parle de marche, de la grosse marche, comme on dit. Les Chic-Chocs, c'est quelque chose. Tu fais quoi dans la vie? Je suis traductrice. Elle était traductrice. Elle l'est toujours. Elle aurait pu être comptable ou médecin. Cela n'aurait pas changé grand-chose parce qu'elle m'a dit rapidement, « Ça, c'est mon métier. » Mais je viens de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire, un truc que j'ai attendu toute ma vie. La marche génère des conversations qui s'éloignent rapidement des banalités. Brigitte, 54 ans, a été adoptée par une famille qu'elle décrit comme formidable, aimante, généreuse, mais du plus loin qu'elle se souvienne, elle a toujours rêvé de retrouver ses parents biologiques.
Bien donc.
Oui, hein, c'est souvent, hein, ce désir-là, il est très fort. Hein?
Très fort.
Très fort, et on comprend pourquoi aussi. Pourquoi, justement, dit Émilie Dubreuil? Parce que c'était comme s'il y avait un fantôme qui vivait en moi. Mon miroir me renvoyait une image lisse. Il y manquait le passé, l'origine, l'original. Jeune adulte, les émissions de Claire Lamarche et ses retrouvailles l'inspirent et elle s'inscrit dans un groupe, le mouvement Retrouvailles, dont le mandat est de matcher des parents et des enfants qui désirent de se retrouver. Vous vous rappelez de l'émission de
Absolument, absolument. Oui, hein? C'était toujours quelque chose de très émotif.
Ah oui. Elle était magicienne, cette Claire Lamarche. On ne sait pas ce qu'elle fait aujourd'hui. On ne la voit plus, hein?
Non,
c'est ça.
Longtemps j'ai entendu parler d'elle, effectivement.
Mais ni sa mère, ni son père biologique, à cette Brigitte, ne se manifestent dans les listes du groupe. Puis, dans les années 1980, la loi change et elle réussit à obtenir des antécédents biologiques non identificatoires. Une expression de jargon, évidemment, qui veut dire qu'un enfant adopté peut obtenir tous les renseignements sur ses parents que les services sociaux détiennent, sauf ceux qui permettraient à l'enfant de les identifier. Au début des années 1990, elle a su que son père avait 31 ans quand elle est née, qu'il n'avait pas étudié après le primaire, qu'il venait d'un milieu rural. Elle a appris que sa mère avait 24 ans quand elle est née. C'est très vague. Les années passent. Une nouvelle loi est adoptée, encore. Dorénavant, à la demande d'un enfant adopté, les services sociaux peuvent contacter la mère biologique En 2005, elle reçoit un appel. Une travailleuse sociale insiste pour lui parler chez elle. Elle apprend Brigitte Castillo que sa mère est décédée 6 ans après sa naissance par suicide. « Je n'avais jamais envisagé cette option-là », m'a dit Brigitte. C'était comme un tremblement de terre. La dame n'a pas voulu me donner son nom, mais elle m'a dit que ma mère avait un prénom vraiment rare. La suite fut palpitante, déchirante aussi, mais je suis devenue celle qui trouve. Pour une raison inconnue, appelons ça un cadeau. Chaque pierre retournée révélait un nouvel indice. Chaque nouvel indice s'emboîtait parfaitement aux autres indices. Mon histoire s'écrivait sous mes yeux, mon arbre biologique prenait racine. On avait tiré mon nom dans le grand chapeau cosmique. Alors voilà, c'est le début de cette histoire. Je vous tiens en haleine. C'est une très belle fin. Et vous allez comprendre que cette histoire a aussi un lien avec mon champ d'intervention, qui est la technologie.
je n'ai aucun doute là-dessus, mais j'aime beaucoup la phrase qui dit « Je suis celle qui trouve ».
Oui, voilà, c'est
ça. J'aime beaucoup ça.
Ah non, on fait dans l'optimisme aujourd'hui.
Oh, tout à fait.
Et c'est tant mieux.
Oui, ça me fait plaisir.
Oui.
J'en ai besoin. Nous allons poursuivre cet excellent texte, Francine.
Oui, donc, Facebook y est pour beaucoup dans l'histoire de Brigitte. C'est pas moi qui le dis, c'est Émilie Dubreuil qui l'écrit. Elle trouve des groupes sur Facebook qui aident gratuitement des adoptés à faire des recherches. On les appelle les Search Angels ou Anges de la recherche. Tracy, sa Search Angel, qui est basée en Californie, aide comme ça des centaines de personnes par année à faire des recoupements de données. La mère de Brigitte a un prénom rare et elle est morte à 30 ans, etc. Elle trouve une Lys Bolduc, les frères et sœurs de cette jeune femme qui ont eu des enfants. Brigitte en trouve un sur Facebook, lui écrit. Il accepte de passer un test d'ADN. Bingo, c'est son cousin. Elle est bien la fille de Lys Bolduc. Elle va chercher le rapport du coroner sur la mort de sa mère et y trouve le nom du fiancé de sa mère lorsque celle-ci est décédée. Elle le cherche sur Google, tombe sur sa rubrique nécrologique et cherche sur Facebook les gens qui le laissent dans le deuil. Rebingo, cet homme est bien son père, apprendra-t-elle. À peine 2 semaines plus tard, elle rencontre ses tantes, puis son demi-frère. Je les regardais et je souriais. C'était étrange et familial à la fois. C'était surtout la première fois que j'entendais quelqu'un me dire « Mon Dieu, que tu ressembles à ta mère. »
Ouf.
Au sommet, où nous mangeions un sandwich, Brigitte m'a raconté que la première fois qu'on lui a donné une photo de sa mère, qu'elle a pu voir son visage, ça a été comme un cataclysme, comme la résolution d'un portrait robot qu'elle avait construit dans sa tête, mais qui restait flou. J'ai revu Brigitte dans une randonnée récemment. En descendant la montagne, elle m'a dit que le plus grand regret de sa vie est de ne pas avoir libéré son père de son lourd secret avant qu'il ne meure. Je crois qu'il ne m'a pas cherché parce qu'il avait honte. Lise et lui n'étaient pas mariés quand je suis née. Il l'a laissée seule avec moi et il ne pouvait pas s'occuper seul d'un enfant dans les années 1960. J'étais une enfant bâtarde. Dieu sait que ça ne veut plus rien dire, bâtarde.
Non.
Lise en est morte de chagrin. Brigitte m'a envoyé sur Facebook une petite photo prise dans un photomaton de son père et de sa mère biologique qu'elle a encadrée et qu'elle a déposée sur le manteau de sa cheminée. Quand je la regarde, je souris. Ce cadeau-là, l'image des deux visages qui ont créé le mien, je l'ai attendu toute ma vie. Joyeux Noël, Brigitte. Quand la neige fondra, tu me raconteras la suite. Joyeux Noël, cher lecteur, à vous et à toutes vos familles. C'est ce qu'Émilie Dubreuil dit. Mais je dis aussi, Joyeux Noël, Émilie Dubreuil. Merci pour ce plus beau cadeau. Donc, dans le décembre, dans le voir, de décembre 2018.
Merci beaucoup. Mon Dieu, quel texte,
Émilie. Oui, c'est beau, hein?
Un beau texte.
Oui.
Un beau texte de Noël.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais.
C'est la peau du tambour et...
Boum Boum par Maryse Letarte.
Merci beaucoup, Maryse. C'est une belle chanson, bien à propos. De mon côté, je vais vous parler de quelques astuces pour passer plus vite à la caisse. C'est à peu près le temps d'en parler. Je sais qu'il y a encore bien des gens qui ont des courses à faire. Je vous en fais part. J'ai trouvé cette chronique dans l'édition du soir de Ouest-France et c'est écrit par Céline Deluzarche. Alors voilà, il semblerait qu'il y a une étude, l'étude Harris Interactive, 47% des gens jugent inacceptable d'attendre plus de 4 minutes dans une file d'attente. 76% ont déjà déclaré avoir renoncé à acheter, ont quitté le magasin parce qu'ils jugeaient la file d'attente trop longue. Alors donc, en résumé, il reste donc une personne sur deux qui prend pourtant son mal en patience. Mais si vous êtes vraiment pressé, voici quelques stratégies. Je ne les ai pas essayées, mais je vous les confie. Pardon. Choisir une file où la personne devant nous a un chariot bien plein. Ah voilà. Je regarde Francine à côté de moi qui est surprise.
Ben j'ai des doutes, mais je vous écoute.
Cela semble contre-intuitif. Pourtant, l'encaissement est beaucoup plus rapide avec un seul client ayant beaucoup d'articles que plusieurs personnes avec des petits achats. Voilà.
Oh.
Vu comme ça, ça peut avoir du sens. Il faut en moyenne 41 secondes pour encaisser un client et 3 secondes pour scanner un article. Pour une personne avec 100 articles, vous attendrez donc 6 minutes contre près de 9 minutes si ces 100 articles seraient répartis sur 5 personnes. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc, c'est plus rapide d'avoir quelqu'un avec un gros chariot plein que répartir tous ces items-là à plusieurs clients. Bon, voilà. Une autre astuce, ce serait privilégier la file unique. C'est-à-dire, il y a plusieurs hypermarchés ou supermarchés qui expérimentent la file d'attente unique. C'est-à-dire, tous les clients font la queue dans la même file. Ensuite, ils sont répartis sur différentes caisses au fur et à mesure qu'elles se libèrent. J'ai vu ce type d'attente à plusieurs endroits et ça réduit le temps d'attente par 3. Je suis très mathématique, un matin, je m'en rencontre. Même si cela donne l'impression d'une file plus longue au départ, on évite le syndrome de la mauvaise caisse. Je prends toujours la mauvaise file, je suis toujours derrière les mauvais clients. Non, on évite ça. Fait que tout le monde avance à la même vitesse. Puis lorsqu'une caissière rencontre un problème technique, bien, le reste de la file continue d'avancer pareil. C'est pas pire. Fuyez les caisses automatiques. Bon, voyons voir celle-ci. Censé nous faire gagner du temps, les caisses automatiques où le client scanne lui-même ses articles, bien, ça se multiplie de plus en plus, on le sait. Mais attention, ça a été réputé selon cette étude qu'un client prend 2 fois plus de temps qu'une caissière pour passer ses produits. Puis ça, je le sais, je l'ai fait hier, justement. J'avais de la misère à trouver les barcodes, les codes-barres qu'on trouve sur... Je ne me suis pas calculé, mais je pense que ça a pris plus de temps que si j'étais passé à une caissière.
Ouais, mais là, bon, vous dire une chose. Moi, je suis une utilisatrice, là. Oui. Et puis, je ne parle pas juste de techno. Je suis quand même assez techno, je crois.
Oui.
Et souvent, leur technologie, là, en tout cas dans les supermarchés, c'est assez désuet.
J'ai pas de comparable.
On n'est pas dans la dernière technologie.
Attendez, je l'ai à la toute fin de mon texte, la dernière technologie, ça va vous ravir.
OK, alors c'est pas juste le consommateur.
Non, tout à fait. Donc, on disait que le client prend 2 fois plus de temps qu'une caissière à passer ses produits. Il met en 2 à 3 minutes pour scanner à peu près 15 d'articles. Bon, mais comme il est occupé, ben le temps a d'aller plus vite. C'est juste une illusion au final. Et il y en a une autre. Ici, c'est éviter les files d'attente avec des personnes âgées. Bon, je vais y aller avec prudence, là. Les retraités ont tendance à prendre davantage leur temps lorsqu'ils font leurs courses. Ben, pourquoi pas, d'ailleurs, OK? Ouais. Les seniors payent davantage aussi en espèces, soi-disant. Alors, ça prend plus de temps qu'un encaissement par carte de crédit. Ils achètent davantage de fruits et de légumes, puis ceux-là, ben, c'est un petit peu plus long à encaisser. Mais j'y allais avec prudence, là.
Oui, il faut rentrer les codes, souvent.
Tout à fait. Alors écoutez, est-ce qu'on est bientôt vis-à-vis la fin des files d'attente? Voici voir, tous les supermarchés cherchent toute la martingale censée nous éviter la corvée d'attente aux caisses. La file d'attente virtuelle, elle existe. Il y a une application mobile qui s'appelle Je File. Le client reçoit une notification quand une caisse se libère et peut accepter la proposition de reporter son passage à cette caisse ou pas. Il y a aussi une réservation d'horaire sur un smartphone, semble-t-il. Celle-là, je ne l'ai pas. Et il y a aussi l'application Drive qui est de plus en plus prisée, qui permet de retirer ses courses sans même entrer dans le magasin. C'est-à-dire, on commande, on fait juste passer à un endroit, on prend toutes nos choses. Mais la toute dernière, et celle-là que j'adore, c'est celle d'Amazon Go. Chaque objet que vous allez prendre sur un rayon est reconnu, enregistré par une caméra intelligente. Le client ressort sans même passer à la caisse, puis reçoit une facture sur son téléphone cellulaire quelques minutes plus tard. Celle-là, je l'aime bien.
Alors, oui, je l'ai expérimenté, pas moi-même, mais je suis allée voir sur la côte ouest américaine, canadienne. Oui. Et c'était au tout début, il y a peut-être un an ou deux, là, je ne suis pas très bonne, ma mémoire pour le temps est souvent défaillante. Et ce qui était vraiment, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens sortaient, puis ils se sentaient comme un peu bizarre de pouvoir sortir.
Comme si on avait sans volé être les passé... objets.
Exactement. C'est ça. Alors, je me suis amusée pendant un certain temps à les regarder. J'étais une voyeuse d'Amazon.
Écoute, moi, j'ai bien hâte d'essayer ça. On prend les objets, ils nous reconnaissent, puis on reçoit la facture ensuite.
C'est ça.
Ah voilà, c'était pour vous faire un petit clin d'œil pour les dernières courses à faire. Alors, on vous reviendra probablement dans une autre journée avec la suite des choses. Oui, alors nous revoilà. Et Francine, cette fois-ci, vous allez nous gâter de quelle façon?
Bien, je ne sais pas si on se gâte, mais en fait, c'est quand même un texte intéressant qui est paru dans Le Devoir le 15 décembre 2018 dans un dossier sur la mémoire. Et on dit « Ce texte est voué à disparaître de votre mémoire ». Alors, c'est le titre de l'article de Magdalene Boutros. La période des fêtes fait jaillir souvenirs et nostalgie. En cette ère du numérique, comment compose-t-on avec les émotions et les images du passé? Incursion dans les méandres de la mémoire. Le texte que vous êtes en train de lire est voué à disparaître de votre mémoire. Quelques idées vous resteront peut-être en tête. Mais d'ici quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, si je réussis à bien marquer vos esprits, vous ne vous souviendrez plus de ces lignes. Si votre cellulaire trône à vos côtés, votre capacité de rétention sera d'autant plus affectée. Une distraction est si vite arrivée. Une notification, un texto ou l'irrésistible envie de dévier votre attention vers des informations plus légères sur les réseaux sociaux réduiront la quantité d'informations retenues. Et puisque votre cerveau est bien conscient qu'en quelques clics, vous pourrez retrouver cet article sur Internet, il sera moins prompt à retenir les informations qui y sont contenues. Mais peut-être que l'appareil électronique que vous gardez à portée de main vous incitera à approfondir vos connaissances sur la mémoire en effectuant une recherche sur Internet vous permettant de consolider certaines informations. Bien qu'on puisse être porté à croire que notre dépendance aux appareils électroniques atrophie notre mémoire, le temps où nous connaissions par cœur les numéros de téléphone de nos amis, leur date d'anniversaire, et le chemin pour nous rendre chez eux n'est-il pas révolu? Des experts interrogés par Le Devoir y voient une relation beaucoup plus complexe. L'effet des nouvelles technologies sur la mémoire est loin d'être réducteur. C'est vrai qu'il y a une diminution de la capacité à soutenir l'attention. C'est une fonction importante dans la fabrication des mémoires, explique en entrevue Simon Ducharme, qui est un neuropsychiatre à l'Institut neurologique de Montréal et au Centre universitaire de santé McGill. Le fait d'utiliser nos téléphones et autres appareils électroniques comme une véritable mémoire externe de notre cerveau n'est pas une paperasse, une paresse exempte de conséquences. Toutes les fonctions cognitives peuvent être entraînées et donc, à l'inverse, diminuées si on les entraîne moins, remarque Simon Ducharme. À titre d'exemple, il a démontré que lorsque nous utilisons un GPS pour nous déplacer, notre hippocampe est moins stimulé. L'hippocampe est une région du cerveau qui agit sur la mémoire spatiale et épisodique, c'est-à-dire sur les expériences du passé. Mais cet élagage dans le choix de ce qu'on retient ou non s'avère également extrêmement avisé. Il y a des informations que l'on n'a plus besoin d'apprendre par cœur et c'est tant mieux, note Isabelle Rouleau, qui est professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Notre cerveau retient désormais davantage les étapes à suivre pour trouver ce qu'on cherche. On apprend maintenant le chemin pour se rendre à une information plutôt que l'information elle-même, explique Isabelle Rouleau. Mais ces informations devront toujours être mises en contexte. Le danger, c'est de penser que parce qu'on a accès à cette énorme encyclopédie au bout des doigts, on n'a plus rien à apprendre. Or, apprendre est nécessaire pour faire des liens, insiste-t-elle. Déléguer une partie de notre mémoire collective à Internet affecterait davantage notre mémoire à long terme que la mémoire de travail, également appelée mémoire à court terme. Pour s'affermir, la mémoire a également besoin d'être consolidée, ce qui est facilité par l'avènement d'Internet. Pour que les souvenirs demeurent, il faut qu'ils soient réactualisés, qu'ils recirculent, sinon ils tombent dans l'oubli, mentionne Isabelle Rouleau. Alors, si ce texte sur la mémoire vous a intéressé, je vous rappelle qu'il est extrait d'un dossier qui a été publié dans Le Devoir le 15 décembre 2018, l'auteur Magdalene Boutros.
Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous lire une petite capsule santé. L'exercice favorise la concentration et préserve aussi nos facultés mentales, que Francine nous parlait il y a un petit moment. L'activité des ondes alpha et l'apport de sang lorsqu'on fait une activité physique, ça nous calme, ça éclaircit nos idées. L'arrivée supplémentaire de sang signifie pour le cerveau plus d'oxygène, plus de glucose et aussi une protéine particulière qu'on appelle le BDNF. Bon, par exemple, 20 à 30 minutes de marche rapide, on a les idées plus claires, on est mieux concentré, c'est du 2 pour 1, quoi. À raison de 30 minutes par séance, au moins 3 fois par semaine, c'est ce qui fait dire aux scientifiques que l'exercice, même après 50 ans, ça freine le déclin des facultés mentales. Alors, tous à nos espadrilles ou tous à nos bottes et allons faire un peu d'exercice. Nous vous quittons un court moment, le temps d'une pause, et restez avec nous. On vous revient. Mais voilà, la pause était vraiment courte, nous revoici. J'aimerais, Hélène Bédard au micro, j'aimerais vous parler de la routine du temps des fêtes avec les tout-petits. Je vous reviens dans un tout petit moment. Alors, nous y voilà. J'ai trouvé cet article dans l'espace grands-parents de la revue Virage. Pendant le temps des fêtes, l'horaire des enfants est souvent chamboulé, on le sait. Pour les tout-petits, le temps des fêtes peut représenter une source de perturbation plutôt importante. Comme les routines sont très rassurantes pour les enfants, mieux vaut essayer d'en conserver certaines, surtout celles qui entourent le dodo et l'alimentation. Un enfant qui est fatigué, qui a faim, a d'ailleurs davantage à devenir agité ou même des fois à piquer une colère. Vous pouvez, comme grand-parent, aider vos tout-petits et aussi soutenir les parents. Ça, c'est une bien belle initiative. Comme par exemple, la routine des repas et du sommeil. Servir les repas, les collations à vos tout-petits aux mêmes heures que d'habitude, aux heures habituelles. Un décalage occasionnel dans le temps un léger décalage ne devrait toutefois pas poser problème, mais nous devons nous en tenir aux heures habituelles. Ne pas s'attendre à ce que les tout-petits demeurent à table longtemps. Par exemple, un enfant de 2, 3 ans, il est capable de rester assis pour le repas à peu près 10 à 15 minutes, mais pas plus, là. Alors, Ça me semble bien raisonnable qu'il se lève et qu'il aille jouer, là, qu'il court un petit peu autour.
Mais c'est bon, 10-15 minutes quand même, il y a des adultes où c'est comme ça des fois.
Des grands enfants, vous voulez dire?
Oui,
des grands
oui. Ados. Ah oui, c'est ça, les grands enfants. Oui, OK.
Maintenir autant que possible leur routine de sommeil. Il faut accepter qu'ils ne se couchent pas exactement à l'heure normale ou peut-être qu'ils s'endorment dans vos bras durant la fête, car il s'agit d'une situation particulière. Les parents devraient prévoir, lorsque c'est possible, puis ça, c'est la meilleure idée, une journée de congé entre les visites pour revenir à une routine normale et faire des activités calmes. Les parents devraient aussi voir à ne pas surcharger l'horaire afin d'éviter des déplacements précipités d'un endroit à un autre. Le tout-petit demeurera calme et en confiance s'il vit une transition lente et en douceur entre chaque activité. Tout ça, ça me paraît bien convenable et surtout bien réalisable, surtout. Puis j'ai trouvé aussi une belle activité, toujours dans le même article, c'est Noël au musée. Écoutez bien ceci. Pour plonger dans la magie des fêtes avec vos tout-petits, laissez les centres commerciaux et allez vers les musées et les bibliothèques. Ils ont tous des activités thématiques. Par exemple, celle du musée McCord propose une exposition des jouets de différentes époques, des activités familiales et surtout les vitrines mécaniques de Noël. Je ne sais pas si vous êtes passé devant Ogilvy quand vous étiez plus jeune, mais ils les ont tous au musée McCord et on peut amener les tout-petits. Et en plus, l'activité est gratuite pour les tout-petits. Alors écoutez, je vous laisse là-dessus. Ça a été pour moi un doux plaisir de parler des enfants durant la période des fêtes. Et voilà. Yeah. Francine... Je vous vois sourire.
On n'est pas dans le conte de Noël, malheureusement, okay. Mais la vie continue pendant cette période. On ne peut pas mettre notre tête dans le sable. Je dis dans le sable parce que comme il n'y a pas de neige, il faut bien la mettre quelque part. Hein? C'est ça. Alors, on parle de Twitter et des trolls sur Twitter qui s'en prennent aux femmes. C'est un texte qui est paru dans la section Société du journal Le Devoir, signé Annabelle Caillou, le 18 septembre 2018. Insultes, harcèlement, commentaires sexistes ou racistes. La violence sur les réseaux sociaux touche de nombreuses femmes, d'autant plus lorsqu'elles sont racisées, révèle une récente étude réalisée par Amnesty International en collaboration avec l'entreprise montréalaise d'intelligence artificielle Element AI. Plus d'un million de tweets violents, injurieux ou problématiques ont été envoyés aux femmes ayant participé à l'étude. Il y en a plus de 700. Au cours de l'année 2017, soit en moyenne un toutes les 30 secondes, d'après les calculs d'Éléments AI publiés mardi. Et ce sont les femmes racisées qui sont les premières visées. Si les femmes de couleur, noires, asiatiques, hispaniques et métisses, ont 34 % de risque de plus que les femmes blanches d'être mentionnées dans des tweets désobligeants, le pourcentage, seulement pour les femmes noires, monte à 84 %. Alors, c'est quand même important. Important. Énorme. Oui, c'est énorme, énorme. L'organisme qui avait déjà recueilli des témoignages sur le sujet a collaboré avec une entreprise d'intelligence artificielle afin de récolter des chiffres sur le phénomène. Avec des chiffres, on va au-delà de l'anecdotique. Ça permet d'avoir un dossier plus solide pour dénoncer un problème. Des chiffres, ça parle davantage parfois. Note Julien Cornebise, qui est directeur du bureau de recherche d'Éléments AI à Londres. Pour en arriver à de tels résultats, une équipe de plus de 6500 bénévoles a analysé un échantillon de 228 000 tweets sur un total de 16 millions, envoyés en 2017 à 78 femmes, toutes journalistes ou en politique au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors donc, c'est des femmes qui ont quand même une certaine visibilité, une certaine vie publique. La dépendance aux médias sociaux pour rendre compte de l'actualité, engager les électeurs ou exprimer des opinions sur des sujets d'actualité, fait des femmes journalistes et des femmes en politique une cible privilégiée pour la violence et les abus, reconnaît Mme Marin en expliquant le choix de l'échantillon utilisé pour l'étude. Elle estime toutefois que le phénomène est généralisé et touche la majorité des femmes, quelle que soit leur occupation. C'est pas pas la première fois que l'organisme sermonne Twitter à ce sujet. Amnesty International a déjà réclamé à plusieurs reprises que des données sur l'ampleur et la nature des violences sur la plateforme soient publiées, mais en vain. Dans sa politique d'utilisation, le réseau social Twitter interdit pourtant les commentaires haineux, mais il peine à modérer tous les messages qui se retrouvent sur sa plateforme. En se montrant incapable de sévir contre ce fléau, Twitter contribue à faire taire des voix déjà marginalisées, insiste Mme Marant, précisant que les femmes sont souvent portées à s'auto-censurer ou à limiter leur interaction sur les réseaux sociaux pour ne pas se heurter à de tels propos.
Exact.
L'animatrice, auteure et chroniqueuse québécoise Judith Lucier peut en témoigner. Des commentaires d'internautes malveillants, elle en supporte depuis des années. Les gens ont du mal à comprendre qu'un troll, c'est pas juste une personne hyper violente qui vous insulte, c'est aussi celui qui vous parle avec assurance et condescendance, qui vous dit des propos paternalistes et infantilisants. C'est ça le plus dur, confie-t-elle. En épuisement professionnel, incapable de répondre, de contrôler, ni même de supporter les commentaires désobligeants qu'elle recevait quotidiennement sur les réseaux sociaux, Judith Lucier a pris une pause et a abandonné sa chronique dans le journal Métro en février 2017. Presque 2 ans plus tard, elle vient de retrouver sa colonne la semaine dernière. Je continue de penser que les femmes et les personnes issues de groupes marginalisés font l'objet de commentaires plus agressifs, méprisants, infantilisants. Mais j'ai décidé d'aborder mes interlocuteurs avec plus d'empathie et d'entretenir plus de bienveillance envers moi-même, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Pour Mélanie Millette de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, les résultats de l'enquête d'Amnesty International et d'Éléments AI ne sont que le prolongement d'un sexisme et d'un racisme qui persistent au Royaume-Uni et aux États-Unis et qui se retrouvent aussi au Canada. Annabelle Caillou nous en parlait dans Le Devoir du 18 décembre 2018.
Merci beaucoup.
Il y a le beau-frère qui a lui-même travaillé plus que tout le monde, épuisé. Et la belle-sœur qui a elle-même cuisiné plus que l'autre belle-sœur déjà renfrognée. Pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon. D'arriver à l'heure, et alors c'est à une heure bien spécifique. Nous servirons les amuse-gueules, et tant pis pour ceux qui en veulent, pis dans le trafic. Pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon. Une vraie carte postale aurait dit ma mère. C'est tout blanc pour le réveillon.
Daniel Bélanger pour Le Réveillon.
Merci, merci, Maurice. Très belle chanson. Beau choix ce matin. Très, très agréable. Si on n'entend pas des chansons de Noël à ce moment-ci, je pense que je ne sais pas quand est-ce qu'on va les entendre. Merci beaucoup. De mon côté, je vais vous jaser d'un appel. Enfin, je vais plutôt vous lancer un appel à la vigilance. Attention, il y a une fraude du type grands-parents qui est actuellement en hausse. Je vais vous en parler un tout petit peu. La fraude de type grands-parents, c'est une arnaque téléphonique. C'est en recrudescence au Québec. Êtes-vous certain que c'est votre petit-fils qui vous appelle puis qui vous demande de l'argent? Le réseau FADOC a été interpellé afin de diffuser l'information selon laquelle cette arnaque téléphonique fait des milliers de victimes. Bien, actuellement, c'est en hausse. Les personnes visées sont la plupart des gens aînés. C'est pour ça, ce matin, que je veux attirer votre attention là-dessus. Les arnaqueurs se font passer pour une personne proche de la famille, aux prises avec un problème urgent, et évidemment, ça nécessite une somme d'argent. Puis là, les prétextes sont vastes. J'ai eu un accident, j'ai un démêlé avec la justice, je suis loin, ils ont saisi mon passeport, etc., etc. Bref, tout pour vous faire trembler, là. Les fraudeurs vous manipulent les victimes et leur soutirent pas quelques dollars, des milliers de dollars. Quand même impressionnant, tout ça. La mise en situation. Allons voir comment ça se passe. La personne au bout du fil se fait passer pour un membre de la famille. Le suspect parle français, les victimes sont toujours des personnes âgées. L'individu demande donc de faire parvenir de l'argent, soit par transfert de fonds, ou pire, il envoie une personne à l'adresse pour récupérer l'argent. Celle-là, pour moi, c'est nouveau. Alors imaginez, vous ouvrez la porte, vous donnez de l'argent à un pur inconnu, puis soi-disant, il va aller secourir soit votre petit-fils ou votre petite-fille. Voici quelques conseils de prévention du service de police de la ville de Montréal. Écoutez bien ceci. Ne donnez jamais de renseignements à votre interlocuteur. Par exemple, s'il vous dit « Me reconnais-tu? » Répondez-lui « Non » et demandez-lui de s'identifier. Posez des questions personnelles auxquelles seul ce proche pourrait répondre. Par exemple, le nom d'un parent, sa ville de naissance, un souvenir de famille unique qu'il ne pourra, si c'est vraiment votre petit-fils ou votre petite-fille, il va vous le dire. Autrement, drapeau rouge. En cas de doute, n'hésitez pas à raccrocher ou simplement demandez donc. Je vous rappelle dans un petit moment, donc demandez un numéro de rappel. Ça, c'est fort important, ingénieux. Téléphonez à un membre de votre famille, à un autre, pour valider l'information. Faites-vous accompagner là-dedans. Ne transférez jamais ou ne remettez jamais d'argent immédiatement à la suite d'une demande téléphonique. Prenez garde et si vous êtes victime d'une fraude ou d'un vol, n'hésitez pas à contacter des personnes suivantes. C'est-à-dire, il y a la ligne Aide Abus. Il y a la ligne Infocrime de Montréal, il y a le Centre antifraude au Canada, Sûreté du Québec ou, plus simplement et fort rapidement, le 911 si vous avez le moindre doute. Alors, ne vous laissez pas prendre au piège, soyez vigilants, et osez dire non aux arnaqueurs. Alors, nous poursuivons avec Francine.
Peut-être aurons-nous un peu de neige à un moment donné. On ne sait jamais.
On demande 2 pouces pour avoir un œil blanc. 2 centimètres, pardon, pour avoir un œil blanc.
Oui, mais ça se peut qu'on l'ait, mais je ne sais pas si ça sera suffisant pour faire du ski. Quoique, il y a des régions au Québec où, semble-t-il, le ski devrait être pas mal dans le temps des fêtes. Ce qui m'amène à mon article publié dans Québec Science en décembre 2018. De meilleurs casques de ski grâce à la simulation. On attend un casque qui nous protège la tête en tout temps, mais les normes sont conçues pour un type de choc précis. Mélissa Guillemette nous parle d'un casque qui pourrait être, en tout cas, très intéressant pour, en tout cas, à tout le moins, atténuer les accidents les plus fréquents sur les pentes.
Vous n'avez pas l'air convaincu.
quand on tombe en ski, je vais vous dire que le choc, il est là. Hein? Il est puissant. Un casque de ski doit protéger une tête qui percute à grande vitesse. Un obstacle métallique selon les normes de l'industrie. Qu'arrive-t-il quand une tête s'enfonce plutôt dans un banc de neige au ralenti ou heurte un autre skieur? Voilà la question que se sont posées Nicolas Bailly, un jeune chercheur formé en génie mécanique, et certains de ses collègues. Il s'agit d'un sujet qui passionne l'ingénieur depuis très longtemps. J'ai grandi dans une petite station des Alpes, dit ce Français d'origine installé au Québec pour son post-doctorat. J'ai fait beaucoup de compétitions de ski et je me suis beaucoup blessée aussi. Donc, il s'est auto... Mm-hmm. Des fois, on parle auto-diagnostiqué, mais lui, il s'est auto-regardé oui. et auto-analysé. Pour c'est mener bon. Son étude, publiée récemment dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise, Nicolas Bailly a reproduit virtuellement les 5 accidents les plus fréquents associés à des traumatismes crânio-cérébraux ou TCC, un terme qui comprend différentes blessures de la commotion cérébrale à la fracture du crâne jusqu'au coma profond, selon un coup de sonde réalisé auprès de l'infirmerie de 15 stations de ski françaises. Soulignons que ces travaux ont été en partie financés par le manufacturier Salomon, qui conçoit des casques et voulait obtenir plus de données afin d'améliorer ses produits. Le constat de l'étude est troublant. La plupart des chutes recensées n'ont rien à voir avec le type de chute qui sert à certifier les casques. Mm-hmm. Faut le faire, hein?
Oui, faut le faire.
Donc, on a fait des casques sans regarder quel était le type d'accident qu'il devait finalement...
C'est la première chose qu'il devait faire.
Oui, qu'il devait protéger. Les normes ont été créées pour les pires cas. Le casque est donc super pour sauver des vies, mais pas pour éviter les commotions, affirme Nicolas Bailly. Pour arriver à cette conclusion qui commande une révision des standards de fabrication des casques, il n'était pas question d'étudier de vraies collisions, compte tenu de leur nature imprévisible, ni d'utiliser des simulations à l'aide de mannequins extrêmement coûteuses. Le chercheur a donc recouru à un modèle mis au point pour les collisions entre piétons et automobilistes, non sans l'adapter. Il a évidemment ajouté des planches à neige, des skis et des bâtons à ses sportifs virtuels, ainsi que toutes les contraintes liées à ces sports, comme les mouvements impossibles en raison du port de bottes rigides et l'ajustement des fixations. En outre, il a fait des tests pour différentes morphologies, diverses vitesses de croisière, deux types de neige et des distances variées par rapport à un obstacle. De toutes ces possibilités croisées ont émergé 1149 vidéos où l'on voit inévitablement des bonhommes animés se casser la margoulette. Du jackass en puissance. L'étude a été réalisée alors que Nicolas Bailly était au doctorat en France, mais ses travaux sur le sujet se poursuivent ici, dans le cadre de son post-doctorat à l'École de technologie supérieure et à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il modélise l'effet d'un choc, accident de ski ou autre, sur la colonne vertébrale et la moelle épinière. Il espère améliorer la compréhension des blessures en vue de leur traitement. Alors, dans cet article, on répertorie aussi les 5 accidents les plus fréquents sur les pentes.
Okay, ouais.
Alors, un skieur qui chute vers l'avant, un skieur qui chute sur le côté, un planchiste qui chute vers l'arrière, une collision entre deux skieurs,
oui.
une collision avec un obstacle. Alors, ce n'est pas ce qu'on souhaite à nos skieurs et planchistes
et
dans le temps des fêtes.
Mais, non.
mais quand même, on peut savoir qu'il faut porter un casque, même si ce n'est pas la plus grande protection. C'est mieux que rien, comme on dit. Et qu'on est sur la voie pour en avoir de meilleurs bientôt.
Oui, sûrement. Ceci fait affreusement un contraste avec quand j'ai commencé à faire du ski. Pas de casque.
Non.
Pas de
casque. Non, 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 non. Non, non, mais c'est pas les bottines qu'on a aujourd'hui où on est immobilisé, on n'a plus la même flexion. C'est pas du tout, du tout la même chose.
Merci beaucoup, Francine, de vos instructions.
Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les rennes traversent la lande, le vent dans la nuit au troupeau parle encore de lui. On l'appelait Nero. Ah, comme il était mignon, le petit Renault Nero, rouge comme un lubignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire il aimait prendre un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler, lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange né rouge, tu conduirais dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. C'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vous fillettes et garçons, pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez rouge, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël.
Patrick Normand, le petit renne au nez rouge.
Merci beaucoup, Maris. Alors voilà. Un dernier texte que, dont j'aimerais vous faire part, et ça parle encore de finances, je vous avais dit au début de l'émission que j'en parlerais. Celle-ci s'intitule « Prenez donc vos finances en main ». Pour profiter pleinement des années à venir, il vaut mieux connaître l'état de vos finances, car vous pourriez ainsi planifier vos activités en conséquence et prévoir pour vos activités futures. C'est un texte de Suzanne Giroux, qui est consultante chez SSQ Services financiers, et c'est apparu dans la revue Virage. Les projets se bousculent dans votre tête, ben bravo! Mais avant de vous lancer, assurez-vous de vous disposer des moyens requis à leur réalisation et vous serez en mesure d'acquitter vos obligations éventuelles. Qui sait les soins dont vous aurez besoin dans 10, 15 ou peut-être 20 ans? Dressez l'inventaire de vos avoirs et de vos dépenses. Jouez de prudence. Pensez ici à vos sources de revenus, frais mensuels, frais annuels, pour vous loger, vous nourrir, vous vêtir, vous divertir. N'oubliez pas le coût de la téléphonie cellulaire, de l'assurance, l'entretien de la voiture. Faites une liste exhaustive de vos dépenses, vous évitera bien des surprises et des soucis. Si vous avez des dettes de carte de crédit, par exemple, ou un solde hypothécaire à payer, peut-être demandez l'avis d'un conseiller financier si vous devriez rembourser les sommes dans les meilleurs délais ou un autre plan. Cette personne peut vous aider, peut vous conseiller. Ces gens-là sont disponibles dans toutes les caisses ou les banques. Lorsque vous saurez exactement de combien vous disposez, alors là, vous pourrez entreprendre la réalisation de vos rêves, la tête en paix. Et que faire, que dire et qu'est-ce qui est de mieux que d'avoir des papiers en règle et surtout à la portée de main? Prenez connaissance de vos documents importants, police d'assurance vie, relevé de placement, relevé bancaire, contrat hypothécaire, vérifiez s'ils sont à jour, regroupez-les surtout pour qu'ils soient facilement accessibles. Là, je sais que vous me voyez venir. Pensez aux documents dont vos proches pourraient avoir besoin si vous décédez, notamment votre testament, votre acte de naissance, vos certificats ou actes de mariage ou d'union civile, numéro d'assurance sociale, numéro de carte bancaire et surtout les récentes déclarations de revenus. C'est juste un coup de pouce à donner aux gens qui vous sont chers, qui vont continuer de vous aimer pareil, mais vous serez peut-être plus là. Si vous n'avez pas encore fait de testament, ben le temps est venu d'y penser. Alors écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est l'indépendance et la satisfaction de prendre nos finances en main. Ça nous permet de profiter d'une retraite sans tracas, sans cesser et en cessant de craindre de manquer d'argent. Parce que vous possédez une connaissance fine de vos possibilités. Plus vous avancerez en âge, plus vous aimerez l'indépendance que la prise en charge de vos finances vous procure. Vous éprouverez une grande satisfaction, puis en prime. Vos enfants, ben, ils vont être fiers de vous. Tu peux y aller.
Alors, évidemment, on parle toujours du téléphone, de notre dépendance. Puis, semble-t-il qu'il y a bien des gens qui cherchent des stratégies pour nous aider à réduire cette dépendance. Alors, l'entreprise Palm a lancé aux États-Unis un tout petit appareil dont l'écran fait la moitié de la taille d'un iPhone. C'est un téléphone de soutien qui doit être lié à un autre cellulaire, conçu pour être utilisé en mode vie quotidienne seulement. Alors, c'est l'équivalent, en fait, d'une carte ne pas dérangée qu'on accroche sur la poignée de sa chambre d'hôtel. Alors, une fois que le mode est engagé, on ne reçoit plus de notifications et on peut se concentrer sur ce qui se passe vraiment autour de soi. Est-ce que cette stratégie va faire école? Je ne le sais pas. C'est la question que pose Alexandre Vigneault dans la Presse Plus du 16 décembre.
Belle question. Il nous reste quelques secondes. Francine, moi et Maurice, on vous souhaite de bien belles fêtes, un joyeux Noël. Et on se donne rendez-vous à la première émission du